Ce soir, j'aimerais vous parler de combat et de comment on pourrait voir le combat, les manières dans lesquelles on peut passer. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que la vie est difficile et il y a des périodes dans notre vie où on passe par des épreuves, les circonstances ne nous font pas de cadeaux et c'est difficile. On est là et pourtant on est avec Dieu et Dieu est toujours avec nous, il nous accompagne dans nos épreuves. Et parfois, on l'oublie. L'Ecclésiaste dit, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On croit apporter quelque chose de nouveau, mais en fait, ça existait déjà dans le passé. C'est juste sous une autre forme. Les combats que l'on a aujourd'hui, on croit que c'est des nouveaux combats, mais en fait, c'est des choses qui sont déjà arrivé dans le passé. Pour illustrer cela, j'ai pris un texte dans l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre des Nombres, mais on va prendre son résumé dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1er, au verset 19 jusqu'à 36. Je vais le lire dans un français très vieux, le Louis II, 1910. C'est bon? Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné et nous arrivâmes à Kadès-Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi, moi c'est Moïse, et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, « C'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. » Mais nous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. » Amen. C'est une longue lecture qui pourtant en fait est un résumé du Nombre chapitre 13 et 14 qui rapporte donc l'envoyé des 12 espions dans le pays promis, dans le pays de Canaan, après que le peuple hébreu criait parce qu'ils étaient esclaves pendant 400 ans sous la servitude de l'Égypte. Dieu a suscité alors un homme du nom de Moïse, et avec son frère et sa sœur, Aaron et Myriam, ils sont sortis et ont guidé le peuple dans le désert. Ils sont sortis et ont traversé la mer Rouge pour arriver juste devant ce pays. Et arrive cet épisode où ils sont devant le pays et ils explorent ce pays en voyant 12 espions. Nombre 13, du verset 25 au verset 29, rapporte ce qui a été dit en plus. Si on peut l'afficher. Ça, c'est le rapport des hommes. Mais les hommes qui étaient allés avec lui nous dirent, nous ne pouvons monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux yeux et aux leurs comme des sauterelles. Si on fait le parallèle un peu dans notre vie, c'est un peu quand, lorsqu'on passe par des épreuves, on a l'impression que nos épreuves, c'est des montagnes. On a l'impression que tout était contre nous. Les circonstances, c'est terrible. La maladie est insurmontable. Ce conflit, cette grosse crise, c'est dur. Mais comment je peux m'en sortir? Et en fait, on est en train de glorifier comme ça les épreuves. Parce que notre société, notre éducation, notre manière de voir les choses depuis tout temps, si vous remarquez bien, depuis tout petit, on est sur l'apitoiement de notre sort. On s'est habitué à ça. Non, mais c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. On est dans la condamnation. Les choses mauvaises qui sont là, les paroles qui sortent de nos bouches. C'est un peu fort ce que je veux dire, mais glorifie le diable. Lorsque tu es en train de dire à tes circonstances à quel point elles sont grandes, insurmontables, trop fortes pour toi, tu es en train de glorifier le diable. Parce que le but du diable, c'est de détruire ta vie, c'est de te décourager. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple hébreu, alors qu'ils avaient vécu la délivrance de l'esclavage, 400 ans d'esclavage, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors qu'ils ont vu les 10 plaies d'Égypte, ces 10 plaies qui s'abattaient sur le peuple égyptien, qu'ils étaient spectateurs de ça, de la gloire de Dieu. Alors qu'ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir en deux, pouvant la traverser à sec et derrière noyer le peuple égyptien, l'armée égyptienne qui courait derrière. Alors qu'ils étaient au bénéfice de la manne qui tombait chaque jour dans le désert, qui les nourrissait chaque jour. Alors qu'ils ne mouraient pas de faim. Alors que Dieu a pourvu à de l'eau. Ils étaient capables de dire, voici, c'est dur. Voici, ce sont des villes fortifiées. Voici, ce peuple est fort. Tellement focalisé sur les circonstances, tellement les grossissants, on était à nos yeux comme des sauterelles. Parce qu'ils voulaient faire un rapport exact. Alors on rapporte exactement ce qui se passe. On rapporte les faits. Oui, des villes fortifiées. Il y a plein de peuples. Ils sont peut-être très forts. OK. Les fils d'Anak, c'était des géants. Plus grands que la moyenne. Mais tellement focalisés sur ça qu'on en oublie Dieu. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Quand on arrive même peut-être parfois au culte le matin ou alors dans notre culte personnel, on arrive devant Dieu avec nos plaintes, nos tristesses, notre état d'âme. Seigneur, c'est dur aujourd'hui, je souffre. Seigneur, la vie, c'est dur. Seigneur, marcher avec toi, c'est dur. Depuis que je crois en toi, j'ai l'impression qu'il m'arrive épreuve sur épreuve sur épreuve. Il m'arrive que des malheurs. La vie est dure. Les gens me rejettent. Au boulot, ça se passe pas bien. Et on a oublié. On a oublié d'où Dieu nous a sortis. On a oublié ce que Dieu a fait dans notre vie. Qu'est-ce qu'il a accompli? L'amour qu'il a déversé dans notre cœur. Toutes ces bonnes choses qu'il a faites. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez goûté à l'amour de Dieu? Vous souvenez-vous où Dieu a touché votre cœur? Vous souvenez-vous de qui est Dieu? Je bénis Dieu pour le set de chants, qui en fait est toute la prédication. Quand je sonde tout l'univers, tous les astres que tu as créés, quand je songe que tu m'as fait moi, peut-être je pense que j'ai un complexe sur moi-même, je suis gros, maigre, trop petit, petit bras, petite tête, gros oreilles, décollé, enfin n'importe, je m'en fiche. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as fait. Quand je songe que tu m'as fait, c'est toi qui m'as fait comme ça. Mais quelle gloire! Et quelque part, on est en train de mépriser Dieu. Et c'est ce que Dieu reproche à ces 10 espions. Et le plus grave dans tout ça, ce n'est pas tant les 10 espions pour les 10 espions. Le plus grave dans tout ça, c'est les 10 espions, leur rapport et la conséquence de ce rapport. Quand c'est vous, j'allais dire, bon, c'est votre problème. Bon, peut-être quand même pas comme ça. Mais quand ça contamine tout un peuple, quand ça souille tout un peuple, de telle sorte qu'ils disent, ok, non, finalement, on ne va pas y aller. Dieu nous a sortis avec un super raisonnement extraordinaire. Dieu nous a sortis du pays d'Égypte dans lequel j'étais esclave pendant 400 ans pour mourir dans le désert. Cherchez l'erreur. Dieu nous a sortis, il nous a fait vivre, il nous a nourris tous les jours dans le désert avec la manne, il nous a donné de l'eau, pas besoin de nous changer, voir toutes ces choses en Égypte. Pourquoi? Pour mourir dans ce pays de Canaan? Ça, c'était leur raisonnement. Pourquoi Dieu m'aurait-il fait sortir de mon état d'avant, de mon état d'esclave, pour mourir juste là? Le pire dans tout ça, c'est qu'on est capable d'avoir ce genre de raisonnement. Parce que dans nos faiblesses, dans notre souffrance, on est capable de dire, Seigneur, mais tu n'es même pas là. Sinon, tu m'aurais sorti de cette galère. Seigneur, si vraiment tu m'aimais, tu aurais fait quelque chose et je ne serais pas autant victime de ces injustices. Le problème dans tout ça, c'est qu'on oublie qui est Dieu. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on oublie les promesses de Dieu. Et vous savez, il y a une promesse que je n'aime pas trop. Je pense que vous n'allez pas l'aimer non plus. Mais pourtant, c'est une promesse. Cette promesse, c'est « vous aurez des tribulations ». Super promesse, hein? Vous aurez des tribulations. Wouh! Amen! Ouais. Mais dis quoi? Mais j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Soyez en paix ou ne vous effrayez plus, je ne sais plus exactement la formulation, mais j'ai vaincu le monde. Parce qu'on lit des fois et on oublie le contexte. C'est pour ça que c'est très important quand nous, on parle, on pose le contexte pour mieux comprendre un peu ce qui se passe. Parce que sinon, en fait, on fait dire n'importe quoi à la parole de Dieu. Ça s'appelle le téléphone arabe. Vous savez, les quiproquos qui se passent. D'ailleurs, dernièrement, j'ai eu un dernier quiproquo là. Quelqu'un a cru que je déménageais samedi dernier. Il faut remettre les choses dans le contexte pour mieux comprendre ce qui se passe. Oui, on aura des tribulations. Et quand Dieu nous envoie, quand dans l'ordre des missions, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Non, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas souffrir quand tu vas t'engager avec lui. Lui-même, il a souffert. Lui-même, il a vécu le rejet. Lui-même a vécu toutes les souffrances. Il a accompli des prodiges, des miracles devant une foule. Alors les gens, ils ont cru parce que, évidemment, il a fait des miracles et des prodiges. Mais d'autant plus fou, il y a des gens, ils ont vu Jésus faire et ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont même dit des fois pour certains, il est fait au nom de Belzébul. Chaud. Chaud. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. L'histoire de l'Ancien Testament, on retrouve un exemple ici dans le Nouveau Testament. Dieu a accompli des prodiges et des miracles pour le peuple hébreu. Ils ont été bénis, ils ont chanté. Oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Je célébrerai jusqu'à ce que du coup il m'arrive une prochaine épreuve. Et là, je me plaindrai. C'est l'histoire même de l'humanité. Bizarrement, c'est un héritage qu'on arrive à garder très très longtemps, ça, la plainte. Je suis heureux quelque temps, puis il m'arrive une cacahuète. Et là, je suis dans la souffrance. Et puis j'oublie Dieu. Et c'est un exercice qu'il faut qu'on fasse. Nous souvenir. C'est pour ça que les psaumes sont là. C'est pour ça qu'on chante aussi ces chants. Pour nous souvenir de qui est Dieu, de ce qu'il a fait dans notre vie. Les psalmistes le savaient bien. On peut le retrouver par exemple dans le psaume 104, verset 1. Mon âme, virgule, bénit l'Éternel. Mon âme, c'est pas... Mon âme bénit l'Éternel. Ce n'est pas troisième personne du singulier. C'est mon âme, virgule, je t'ordonne de bénir l'Éternel. Ne bénis pas l'Éternel pour l'Éternel. Ne bénis pas l'Éternel parce qu'il faut bénir l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. On l'a chanté d'ailleurs dimanche. Psaume 43. Pourquoi t'abats-tu, mon âme? Pourquoi, mon âme, tu t'abats? Et on a besoin de parler à notre âme. Et gémis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car ma décision, c'est, car je le louerai encore. Pourquoi je le louerai encore? Car il est mon salut et mon Dieu. La chose la meilleure que Dieu nous ait offerte, c'est le salut. C'est-à-dire qu'un jour, quand je vais quitter cette terre, j'aurai ni souffrance, ni maladie, ni épreuve, ni mauvaise circonstance. Et ça, c'est la plus belle des choses. Et ça, on l'oublie. On oublie. On oublie que Dieu est grand. Parce qu'on est très focalisé. Et comme je dis, on glorifie le diable, on glorifie son œuvre. Et mon épreuve, c'est la plus grande. Et mon épreuve, c'est la plus importante. Et tu ne comprends pas par les épreuves par lesquelles je vis. Oui, je ne comprends pas les épreuves par lesquelles je vis. Tu vis. On vit tous. Job le disait. Moi, j'exprime ma souffrance. Et vous vous souvenez comment Dieu il a consolé Job? Il n'a pas dit, Job, t'inquiète, je vais te redonner tout. Job, je vais te redonner des enfants, la richesse, la totale. Non, pardon, Seigneur. Un peu exagéré. Mais... il a dit, mais t'étais là? T'étais là quand j'ai fait l'univers? T'étais là quand j'ai fait l'hippopotame, quand j'ai fait les animaux de la terre? T'étais là à la création? Job, il exprime sa souffrance et Dieu lui explique comment il a créé le monde. Tout ça pour dire quoi? La sagesse que tu as, toi, homme, ma créature que j'aime, malgré tout, n'est rien comparé à ma sagesse, à moi. La sagesse de Dieu, hein, pas sagesse de chant. Dieu est au-dessus de tout cela. Alors quand il nous arrive une épreuve, qu'on puisse dire à notre âme, pourquoi t'as battu? Parce que les circonstances présentes sont telles qu'elles sont. Mais le Dieu qui m'a sorti de l'Égypte, mon Dieu qui m'a fait traverser la mer Rouge, tu ferais un chemin. Pourquoi ? Pourquoi m'abandonnerait-il aujourd'hui ? C'est un Dieu fidèle. Ça aussi, c'est une promesse. Il est fidèle. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il faut qu'on médite la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu. Pas pour faire un exercice religieux, mais pour connaître le Dieu de notre salut. Si un jour je veux connaître Pierre, je passe plus de temps avec Pierre. Et plus je connais Pierre, plus je connais ses faiblesses, ses forces, qu'est-ce qu'il aime, comment il aime les choses, etc., etc. Je saurai donc d'autant plus lui faire plaisir. Des fois aussi, peut-être, je saurai d'autant plus l'énerver. Ça, c'est quand j'aurai envie de le titiller. Mais je saurai mieux communiquer avec lui et je saurai que je pourrai avoir confiance en lui. De la même manière, lorsqu'on lit la parole de Dieu, et d'autant plus lorsqu'on médite la parole de Dieu, c'est-à-dire on la repasse dans notre cœur, on la réfléchit, on pense. On ne prend pas forcément les choses qui nous arrangent, juste les passages par-ci, par-là, par-là, etc., et on fait notre salade niçoise. Mais on prend toute la parole de Dieu pour la connaître. Sinon, c'est des faux raisonnements. Et on a fait ce qu'il ne faut pas faire, un Dieu à notre image. C'est ce qui s'est passé lorsque le peuple hébreu était dans le désert et qu'ils en avaient marre, alors qu'ils étaient sortis d'Égypte. Ils ont fait quoi ? Un Dieu à leur image, un veau d'or, parce que ça leur correspondait. Et quelque part, c'est ce qu'on fait quand on ne veut pas connaître Dieu. Et qu'on s'est contenté de dire « Dieu m'a sauvé, moi je vis de bénédiction de Dieu, et puis Dieu est fidèle, et puis je chante Dieu, et puis je viens. Et puis quand j'ai pas envie de venir, je viens pas. Et puis je vis ma vie de religieux, de croyant, de chrétien, comme je l'entends, parce que je suis un homme libre. » Et on ne se soucie même pas de la pensée de Dieu. On ne se soucie pas de ce que veut Dieu, de quelle est sa volonté. Ça nous suffit de dire Dieu est amour, Dieu est un Dieu plein de grâce, parce que ça nous arrange. Dieu est plein de bonté, ça nous arrange. Dieu est miséricordieux, ça nous arrange. Mais quand ça ne correspond plus, ça ne nous arrange plus. Et on ne veut pas croire en ce Dieu qui permet des épreuves des fois tellement difficiles. Caleb et Josué faisaient partie des 12 espions. J'en parle en dernier pour finir sur une note positive. Ce sont ceux qui ne sont pas les 10 espions qui ont fait un rapport trop réaliste, entre guillemets. C'est pour le micro, ça. Mais qui ont dit, ok, mais l'Éternel a promis de nous le donner. Donc on part à la conquête. Caleb est le premier, il a fait taire les 10 espions qui ont dit, oui, ils étaient géants, c'était trop fort et tout, etc. Et Caleb a dit, non, mais on va y aller. On y va, Dieu nous l'a donné. Et puis les 10 espions, comme ils étaient nombreux, majorité, ils ont eu les voix les plus fortes. Donc le peuple s'est laissé entraîner par cela. Que l'on puisse faire attention, nous aussi, à nos paroles. Parce qu'on peut bien décourager un bon nombre de gens tout autour de nous. Qu'on puisse veiller sur notre bouche et sur notre langue. Que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir dire les bonnes choses. Ce n'est pas forcément de dire des paroles sans consistance en disant « Dieu est bon, non mais Dieu va te bénir, non mais t'inquiète pas, Dieu est avec toi, Dieu va te consoler. » Ce n'est pas des paroles évangéliques sans consistance. Josué et Caleb, comme tant d'autres qui parlent dans les psaumes, ou dans les témoignages que l'on raconte, il y avait de la consistance, il y avait du vécu. Vous croyez que les chants, c'est juste des bonnes paroles? Vous croyez que les chants que l'on chante, c'est juste des bonnes paroles? Les gens ont donné vie à ces paroles-là. Et quand nous, on les chante, ce n'est pas juste un karaoké. On se les approprie à la lumière de notre vécu en disant « Seigneur, tu m'as fait, mais quel privilège! Seigneur, la victoire est à toi. Seigneur, mon problème, il est là, je le vois, mais je te vois encore d'autant plus grand que mon problème. Seigneur, je vais faire dégager ce problème parce que tu es plus grand. Tu es grand Seigneur. Je lève la tête, non pas pour regarder les épreuves, mais pour regarder le Dieu au-dessus de mes épreuves. C'est ce que le diable veut. Il veut que tu regardes ton épreuve. Il veut que tu sois là. Oh, je souffre. Dieu te dit, ta part à toi, c'est de lever la tête et de compter sur moi. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Loue l'Éternel, espère en lui, car il est mon salut. Il est celui qui m'a délivré de l'esclavage. Il m'a entendu pendant 400 ans en train de souffrir en Égypte. Il m'a fait voir des choses que jamais j'aurais pu voir. Une mer rouge séparée en deux. Vous avez déjà vu ça? J'aspire à voir ça. Chaque jour, être nourri sans même aller faire les courses. Gloire à Dieu. Et on oublie ça. C'est pour ça que Josué et Caleb étaient capables de dire cela. Mais aussi parce qu'ils s'en sont souvenus de la parole de Dieu. Deutéronome 1, 21. Tu peux me le réafficher? Vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Et on oublie que Dieu nous l'a donné. Dieu nous a donné la victoire, pas forcément sous la forme de laquelle on voudrait qu'elle soit la victoire. Mais pour prendre la victoire, il faut s'engager dans le combat. Alors arrêtons. Arrêtons de considérer nos problèmes comme les plus gros. Arrêtons de glorifier le diable. Mais même si on n'a pas envie, chantons à la gloire de Dieu. Adorons l'Éternel, notre Dieu, pour ce qu'il a fait dans notre vie, pour ce qu'il est. Et c'est ce qui a permis de faire tenir l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Je veux juste conclure avec ce passage. Je le lirai dans la version du Semeur pour que ce soit un peu plus actuel et plus compréhensible. Romains 8. J'aimerais bien qu'après qu'on lise le passage, que le groupe de louanges puisse revenir et qu'on puisse chanter ce dernier chant. Peuple de Dieu, lève les yeux. Et qu'on puisse prier, non pas plus comme avant avec gémissement, mais avec victoire. Parce que le Dieu qu'on connaît, c'est le Dieu de victoire. Je m'appuie non pas sur ma sagesse, ni pas sur ma force, mais sur le Dieu de victoire qui habite où? Waouh, ça c'est le peuple de victoire ça. Voilà. Qui habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Peuple de Dieu, lève les yeux. Romains 8, 18. J'estime d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui parle, qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'était ça l'espérance de Paul. Ma souffrance d'aujourd'hui, c'est rien comparé à la gloire à venir. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Dieu. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. On y est bien ? Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons. Comment ? Avec persévérance. Et on a besoin de persévérance. De même, alors qu'on n'est pas bien, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Notre espérance, elle est là. Et voici la promesse. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Les preuves par lesquelles on peut passer, on ne peut pas trouver de raison. On ne peut pas savoir pourquoi on passe par ci, par là, pourquoi je souffre, pourquoi je suis malade, pourquoi, etc., pourquoi ma famille me rejette, pourquoi mon boulot me rejette, pourquoi c'est si dur, pourquoi, etc. On ne peut pas forcément le savoir. Mais Dieu nous appelle à juste lever la tête et à dire « Attends, espère avec persévérance la gloire à venir, la chose que je vais faire. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, on n'arrive pas à grandir. Espérons, chantons comme jamais on a chanté. Louons comme jamais on a loué. Adorons comme jamais nous avons jamais adoré Dieu face à nos épreuves. Que Dieu nous aide. Seigneur, autant de fois, où nous avons souffert, tant de fois où les épreuves ont été plus grandes et nous ont étouffés, nous ont oppressés, ô combien de fois, Seigneur mon Dieu, nous avons donné tant d'importance aux épreuves de notre vie. Seigneur Jésus, pardon. Pardon pour notre incrédulité. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour nos doutes. Pardon, Seigneur mon Dieu, parce que on a donné tellement d'importance à ce qu'on vit, en oubliant qui tu es, en oubliant ton amour, ta fidélité, en oubliant que tu es celui qui a toutes choses entre tes mains, en oubliant, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y a aucun de ceux qui t'appartiennent qui se perdent. Tu nous connais. C'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui sondes nos vies. Seigneur, on veut se rappeler, on veut faire cet exercice, Seigneur mon Dieu, de nous rappeler alors que nous passons par des épreuves, Seigneur mon Dieu, que tu es plus grand, que tu es plus grand que nos épreuves. Alors on veut lever la tête, prier fièrement et acquérir, obtenir la victoire dans le nom de Jésus-Christ. À toi seul, Seigneur mon Dieu, la gloire. Merci pour tout, Jésus. Amen.